Dans le ciel informe se forme le nuage. La flamme qui danse a peur de l'eau. La montagne rêve du temps et de l'espace. La lumière pénètre et grandit le mystère. Le mirage se révèle de la trouble route. Le tonnerre et la musique de la terre. Le lac révèle l'invisible vent. L'extérieur est semblable à l'intérieur. L'esprit voyage et le corps ressent. La parole est destinée à l'âme. C'est ce qui est et qui n'est pas. La montagne est issue du ciel et de la terre. Un état de repos s'est établi car le mouvement est parvenu à sa fin normale. Le cœur est très difficile à calmer. Le repos constitue seulement un état polaire qui a toujours pour complément le mouvement. Il est le calme nécessaire pour comprendre les grandes lois des phénomènes de l'univers et y conformer sa conduite. Les montagnes sont réunies. Ainsi le cœur pense constamment. On ne peut pas changer cela. Mais les mouvements du cœur, c'est-à-dire les pensées, doivent se limiter à la situation vitale présente. Toutes les songeries et les spéculations qui vont plus loin ne font que blesser le cœur. Le feu sort des profondeurs secrètes de la terre et dont les flammes, en s'élevant, illuminent la montagne, la hauteur céleste et la revêtent de beauté. La beauté de la forme est indispensable à toute union pour la rendre harmonieuse et aimable, et non chaotique et désordonnée. Elle n'est pas l'essentiel, le fondement, mais seulement la parure. Dans le feu, il y a l'essence et la forme qui embellit. Dans la montagne, le fort sommet est à la place déterminante. La nature nous montre dans le ciel la puissante lumière du soleil. C'est sur elle que repose la vie de l'univers. Mais cette clarté puissante, essentielle, est entourée de la lune et des étoiles qui alternent gracieusement avec elle. La contemplation des formes célestes confère la faculté de comprendre l'époque et ses exigences changeantes. Ici est montrée la beauté au repos. C'est la quiétude de la pure contemplation. Clarté à l'intérieur et quiétude à l'extérieur. L'univers se révèle comme idée dans les apparences. En tant que tel, il est beau et soustrait au combat de l'existence. Au pied de la montagne est le feu dont l'éclat illumine la montagne et la revêt de grâce, ne brille pas à une grande distance. Au-dessous de la montagne se trouve le ciel. La montagne apprivoise le ciel. Cela donne un grand pouvoir. Le ciel au milieu de la montagne fait naître l'idée de tenir fermement ensemble. La montagne qui immobilise le Créateur donne l'idée de tenir ferme, au sens de retenir, de cultiver, de nourrir. Le ciel indique le grand pouvoir créateur. La montagne indique la fermeté et la vérité. L'un et l'autre traduisent la lumière, la clarté et le renouvellement quotidien du caractère. Ce n'est qu'en se renouvelant ainsi chaque jour que l'on demeure au sommet de la puissance. Et c'est durant les époques tranquilles, le pouvoir de l'habitude aide à maintenir l'ordre dans les temps où la puissance s'accumule. Tout dépend de la force de la personnalité. Le ciel est au milieu de la montagne. Le ciel au milieu de la montagne évoque les trésors cachés du savoir passé. En bas de la montagne est le lac. Le lac est l'élément inférieur, la montagne, l'élément supérieur. La situation montre une diminution de l'inférieur au profit du supérieur. L'élément inférieur s'est donc amoindri au bénéfice du supérieur. C'est un amoindrissement pur et simple. Si l'on diminue la base d'un édifice, l'ensemble y perd de sa solidité. Alliée à la sincérité, la diminution est heureuse. La diminution ne signifie pas nécessairement quelque chose de fâcheux. L'augmentation et la diminution viennent à leur heure. Il importe simplement de comprendre le temps et de ne pas vouloir dissimuler la pauvreté sous une vaine apparence. La fermeté de la conduite aide alors à passer sur ce que la simplicité de la forme peut avoir d'excessif. D'humbles moyens peuvent suffire à traduire les dispositions du cœur. Au-dessous de la montagne est le lac. Le lac s'évapore au pied de la montagne. Il s'amoindrit, ainsi au profit de la montagne qui se trouve enrichie par son humidité. La clarté du feu qui flamboie est placée en haut. Le lac qui s'infiltre est placé en bas. Ces mouvements sont dirigés en sens opposé. Thank you. L'opposition, qui apparaît comme une obstruction, possède, en tant que polarité des contraires à l'intérieur d'un ensemble qui les englobe, sa fonction bonne et importante. Les oppositions entre le ciel et la terre, l'esprit et la nature réalisent par leur équilibre la création et l'éclosion de la vie. Dans le monde des choses visibles, l'opposition rend possible la différenciation par espèce grâce à laquelle l'ordre s'établit dans le monde. En haut, le feu. En bas, le lac. Les deux éléments du feu et de l'eau, même placés ensemble, ne se mélangent pas, mais conservent leur nature propre. Se place en dessous du ciel. Il s'agit de la façon correcte de se conduire. La distinction entre le haut et le bas et la manière dont elle est à la base de la tranquillité, de la conduite correcte, le joyeux lac prend appui sur le grand ciel. Le mouvement va vers le haut. Que le faible se place contre le fort, cela n'est pas dangereux, parce que la chose se passe dans la sérénité. Sans arrogance, si bien que le fort n'est pas irrité et le prend en bonne part. Le faible suit le fort de près et lui donne du fil à retordre. Mais le fort prend bien la chose et ne lui fait aucun mal, car le contact est joyeux et non blessant. En haut, le ciel. En bas, le lac. Le ciel et le lac manifestent une différence d'élévation qui provient de leur nature même, et aucune envie ne peut troubler la situation. Le vent souffle sur le lac et meut la surface de l'eau. Ainsi se manifestent les effets visibles de l'invisible. La force de la vérité intérieure est traduite dans les effets qu'elle opère. L'esprit doit commencer par acquérir une parfaite liberté intérieure à l'égard de ses propres préjugés. Ce qu'il importe essentiellement de comprendre, c'est le fondement de la vérité intérieure. Au-dessus du lac est le vent. Au-dessus de la montagne est le vent. La situation présente le bois au-dessus de la montagne. Un arbre sur une montagne se développe lentement et suivant un ordre. Et c'est pourquoi il se dresse ensuite solidement enraciné. Le vent et le bois. De là naît l'idée d'un développement progressant graduellement, pas à pas. À l'intérieur se trouve le repos qui préserve des actions précipitées et la pénétration externe rend possible le développement et le progrès. Toute influence fondée sur l'agitation ne serait que de peu de durée. Le doux qui s'adapte, mais exerce une poussée, est l'extérieur qui doit procéder de la paix intérieure. C'est précisément le caractère graduel du développement qui rend la persévérance nécessaire. Car seule la persévérance fait que le lent progrès ne se perd pas dans les sables. Sur la montagne est un arbre. L'arbre sur la montagne est visible au loin et son développement exerce une influence sur le paysage. Il ne jaillit pas comme une plante des marais, mais sa croissance progresse lentement. Aucune influence, aucun éveil soudain ne sont durables. Le progrès doit se faire d'une façon toute progressive. La vie parvient ici à son terme. L'œuvre est achevée. Le chemin s'élève haut dans le ciel, comme le vol des oies sauvages lorsqu'elles ont laissé loin derrière elles le chemin. Là, elles poursuivent leur vol, conservant l'ordre de leurs troupes et offrant la figure de lignes serrées.